et on replace nos couplets par des scratchs et en même temps on fait une structure complètement éclatée. C'est le premier mec qui rappe à partir de 5 minutes, il commence à rapper, il fait juste un point et le morceau il s'arrête quoi. Et c'est trop charmé.
La maîtresse elle a dit qu'il fallait faire des colliers de nouilles. Ok.
Mais c'est justement le titre du morceau, hein. Collier de nouilles, on a l'impression que c'est ça, vous avez envie de vous amuser. Hein.
Oui, c'était aussi un petit clin d'œil aux gens qui ont l'impression qu'on fait n'importe quoi. Et parce que bon, bah, depuis qu'on sort des disques, que ce soit à l'atelier ou les membres de l'atelier séparément, on était beaucoup taxés de rap expérimental. Alors on a l'impression que waouh, on fait n'importe quoi, on rappe dans le casque. Alors c'était un petit peu un clin d'œil à ça, une façon de
regrouper tous les stéréotypes des pseudo-créations un petit peu alternatives dans un seul morceau, histoire de le condenser, de le jeter, quoi. Comme ça c'était réglé, ça fait rire tout le monde et en même temps c'est genre un piège qu'on évite parce que ce serait trop simple de faire juste du bizarre parce que c'est mieux quand c'est bizarre.
Dernière question.
Vous voulez pas passer pour des élitistes et pas pour des clowns non plus. Hein, c'est deux clichés un petit peu qui auraient déjà.
On taxe souvent de ça. Non, il y a des morceaux totalement tristes dans l'atelier.
Mais quand on pense tous, on s'est tous rendu compte que c'était un album qui était beaucoup plus triste que prévu, quoi. Et qui traite de choses qui nous ont tous beaucoup plus émus que, bon, l'hip-hop c'est mon pote, c'est un morceau phare pour plein de raisons. Mais il y a beaucoup plus de facettes dans cet album et pas uniquement l'aspect et second degré et comique.
Je dirais que, disons que on fait une musique oui qui est chargée d'émotions et qui est très personnelle et quand on fait cette musique là le piège on essaie d'éviter le piège du côté un petit peu journal intime et donc c'est pour ça qu'on rajoute beaucoup d'humour pour essayer de faire passer la pilule et apporter un certain recul qui permettrait de pas trop tomber dans la poésie de Terminal L.
Bon, je vais pas en plus interrompre, c'est là-dessus que ça s'arrête. Tequila Tex est tactile. Merci en tout cas de vous être déplacé. Et puis,
merci
il y a
vous,
une tournée qui est prévue à l'automne peut-être.
Une soirée à la Guinguette Pirate le 31 juillet pour fêter la sortie de l'album et la création du label Institube.
Voilà une bonne nouvelle. Bon, et chez tous les bons disquaires, l'atelier, buffet des anciens élèves. Je vous retrouve à 19h.
C'était le journal de Franck Mathevon et maintenant les prévisions météo de Jean-Michel Golinski de Météo France.
La météo avec Daikin, climatisation et chauffage pour le résidentiel, le tertiaire et l'industrie.
Le temps faiblement pluvieux qui affectait à la mi-journée toutes les régions allant de l'Aquitaine au bassin parisien jusqu'au nord Picardie va cet après-midi se décaler vers les frontières de l'Est. Maintenant un temps plutôt maussade sur le Jura, la Franche-Comté, la Lorraine, l'Alsace et les Ardennes. Plus à l'ouest, le soleil qui a déjà refait surface ce matin sur la Bretagne va gagner du terrain au fil des heures. Les éclaircies vont s'étendre progressivement du Nord-Pas-de-Calais à l'Île-de-France et du centre aux Pyrénées-Atlantiques. Sur Midi-Pyrénées, le temps va rester très nuageux cet après-midi. Autour de la Méditerranée et en Corse, le soleil fera de belles apparitions, mais au prix d'une tramontane bien établie et d'un vent d'ouest assez fort sur les côtes varoises. Les températures voisines de 33 degrés cet après-midi dans le sud-est et en Corse ne dépasseront pas 21 degrés le long des côtes de la Manche et dans le nord. Il fera 22 à Paris, 23 à Nantes, 24 à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 27 à Toulouse et 28 à Lyon. Demain, de nouvelles pluies vont arriver par l'océan. Elles aborderont la Bretagne et le Cotentin en cours de matinée, puis le nord, l'Île-de-France, le centre, le Massif central et l'Aquitaine en fin de journée. Plus à l'est, le temps va rester sec, malgré un ciel de plus en plus voilé. Enfin, autour de la Méditerranée, persistance du soleil et d'une relative chaleur.
Il est 13h34, vous retrouvez Patrice Géninet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui 9 novembre 1918, la mort de Guillaume Apollinaire.
Oh, ma jeunesse abandonnée comme une guirlande fanée. Voici que s'en vient la saison des regrets et de la raison. Guillaume Apollinaire.
Dominant d'histoire. On dit que les derniers mots qu'entendit Apollinaire le jour de sa mort, le 9 novembre 1918, furent ceux des Parisiens qui, ce jour-là, exprimaient leur haine de l'Allemagne en criant dans les rues « À mort Guillaume ». On était à deux jours de la fin de la guerre et celui dont les manifestants criaient le nom était bien sûr l'empereur d'Allemagne, Guillaume II. Mais Guillaume Apollinaire fut persuadé, dit-on, que c'était contre lui que les manifestants défilaient. Cette histoire a peut-être été inventée, mais elle convient bien à l'auteur de la chanson du Mal-aimé et de quelques-uns des plus beaux poèmes de la littérature française, dont celui-ci, que connaissent tous les amoureux du monde. Écoutez-le, lu par Apollinaire lui-même, dans cette très vieille archive. C'était le 24 décembre 1912.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours tranquillement souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, le demain. Les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le fond de nos bras passent les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, le demain.
Michel Descodins, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était la voix d'Apollinaire en 1912, une des plus vieilles archives de la radio, puis un des poèmes aussi les plus connus d'Apollinaire. Qu'est-ce qui fait qu'un poème reste dans les mémoires? On le lit une fois dans sa vie, on s'en souvient toute sa vie.
Bien, je crois que la réponse vient de nous être donnée par Apollinaire lui-même. Entendez la façon dont il dit ces vers qu'on a si souvent décriés et que je trouve, moi, très belles. D'abord, il les isole. Il y a d'abord dans le poème l'unité du vers. Et même quand il y a un rejet, Apollinaire s'arrête à la fin du vers. Donc c'est donc le vers qui a déjà une unité. Et c'est ça dont on se souvient. On se souvient du rythme de l'alexandrin, on se souvient du rythme de l'octosyllabe. Et il y a une deuxième chose, ce sont les mots. Et les mots qui soutiennent ce que j'appellerais volontiers une mélopée. Apollinaire ne chante pas ces vers, mais il en est très proche.
Il se souvient peut-être des souvenirs qui sont associés à des vers, pas seulement chez Apollinaire, mais chez Verlaine, enfin chez Desdames.
Bien sûr, chez beaucoup d'autres.
Alors, à cause du pont Mirabeau, Michel Descodins, à cause de la chanson du Mal-aimé et d'autres poèmes très connus d'Apollinaire, on oublie qu'il a écrit autre chose que de la poésie dans un livre que vous venez de consacrer à Apollinaire, au livre de poche. Vous rappelez qu'il a écrit, par exemple, du théâtre.
Oui. Et c'est même une tentation du théâtre qui a existé chez lui pendant toute sa vie. Une de ses premières œuvres qu'on a retrouvées tout récemment était à la cloche de bois. C'était un petit acte que, âgé de 22 ans, il a essayé de placer dans un théâtre parisien. Et d'une façon discontinue au cours de son existence, on le voit toujours, essayer de se raccrocher au théâtre, jusqu'alors aux deux grandes réussites de la fin de sa vie, Couleur du temps d'une part, et Les mamelles de Tirésias de l'autre.
Puis des contes aussi, hein,
oui.
L'enchanteur pourrissant, des romans, La femme assise, des romans érotiques aussi. Hein,
aussi, oui.
Et puis alors même des articles pour un périodique financier, c'est extraordinaire ça.
Oui.
C'était pour des raisons alimentaires.
Il était un journaliste extraordinaire, et là il dédaignait quand même ces articles qu'il faisait pour des journaux financiers même. Et nous ne les connaissons pas. Hein. Il ne les a pas signés, il en parle très peu. Ce sont des journaux qui sont mal conservés. Et moi, j'aimerais bien en retrouver un certain nombre pour voir quelle plume était celle d'Apollinaire Boursier.
Alors, une œuvre étonnante, un parcours étonnant aussi depuis le début, Michel Descodins, depuis sa naissance à Rome, le 25 août 1880. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quelqu'un qui a donné ses plus belles pages, ou des pages magnifiques de langue française, il n'était pas français.
Mais il n'était pas français. Et par le sang, il était d'origine polonaise d'une part, et d'une famille polonaise où il y avait déjà du sang italien. Et du côté paternel, bon, la tradition veut que son père ait été Francesco Fuggi da Spermo. Moi, j'en doute depuis un certain temps. Et je dis que nous ne savons pas qui était son père. En tout cas, il avait une ascendance slave très prononcée. Sa première langue a été l'italien. Nous avons de lui des cahiers d'enfants, qui est un abécédaire avec des mots italiens. Et on peut dire que le français est devenu sa langue quotidienne à partir du moment où, à l'âge de 7 ans, suivant sa mère, il est arrivé à Monaco.
Puis son nom, c'était Fitzherbert, il s'appelait Wilhelm Apollinaris de Kostrowiczki, hein,
oui,
c'est ça?
Oui, qui est une vieille famille polonaise.
Et abandonné donc par son père, il avait 5 ans, le père est parti en 1885, je crois qu'il l'a jamais revu. Et puis alors, il est entraîné par sa mère, justement en France, vous le disiez, d'abord c'est la Côte d'Azur, Monaco, Cannes, Nice, découverte de la langue française, découverte aussi des livres, d'une littérature qui l'a beaucoup marqué, et dans laquelle que l'on retrouve aussi dans son œuvre.
Oui, je crois que un élément important de la sensibilité et de l'existence en même temps d'Apollinaire, c'est que pour l'esprit imaginaire qu'il était, l'expérience vécue. Et la lecture, c'est tout le temps. C'est tout le temps dans le souvenir. Et il lui arrive très fréquemment de mélanger des choses qu'il a vécues et des choses qu'il a lues. Ça, je crois que c'est un aspect fondamental de la création poétique.
Et l'amour, les amours déçus, alors il y en a eu beaucoup. Il y en a une très importante. Il est parti comme précepteur, je crois, en Rhénanie. Il rencontre une Annie Pleyden, qui est anglaise. Il va la suivre à Londres. Il la harcèle tellement, elle, qui ne voulait pas que ça se termine en mariage, qu'elle s'enfuit en Amérique. On la retrouvera d'ailleurs dans la chanson du Mal-aimé. Pourquoi ces rapports avec les femmes sont très étonnants, cette déception sentimentale avec Annie Pleyden, vous dites que véritablement elle lui a donné une idée des femmes comme étant incompatibles au fond.
Oui, il l'avait depuis longtemps. Quand on pense que ce vers « les femmes mentent », sorte d'un poème de jeunesse écrit probablement à 18 ans. Il y a chez lui une défiance à l'égard du féminisme qui peut-être provient de sa relation avec sa mère, de toutes sortes de choses qui viennent de l'enfance. Mais en tout cas, c'est un fait. Et à l'égard d'Annie, c'est bien ce qui s'est passé. Là, toute une légende s'est créée. En fait, elle n'est pas partie pour l'Amérique afin de le fuir. Et la rupture a été beaucoup plus souple, si vous voulez, qu'on ne le dit quelquefois. Mais il est certain que s'il l'a rencontré en Allemagne en 1900-1902, s'il l'a revu à Londres en 1903-1904, c'est seulement au courant de 1905 qu'il a compris que tout était fini.
Et puis alors il y aura en 1907 un peintre, Marie Laurencin, auprès de laquelle il y aura une liaison assez durable jusqu'à ce qu'elle le quitte en 1912, inspirant justement le pont Mirabeau dont on écoute la fin.
Oui.
L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure.
Alors c'était encore Apollinaire, le pont Mirabeau à Auteuil, parce que il vivait auprès de Marie Laurencin. Auteuil, il a vécu pendant 5 ans.
Oui, il avait déménagé pour se rapprocher de Marie Laurencin, qui habitait effectivement Auteuil chez sa mère, et c'est une chose qu'on sait mal. Soit cette liaison, ce grand amour était extrêmement curieux, car Marie Laurencin rentrait tous les soirs chez sa mère. Et ils passaient quelquefois des journées séparées l'un de l'autre. Marie Laurencin l'attendait. Elle venait en fin d'après-midi, elle l'attendait chez lui. Et il rentrait ou il ne rentrait pas. Et quand il ne rentrait pas, elle laissait des billets vengeurs. C'est la dernière fois. Ne viens pas pleurer à ma porte demain. Et il allait pleurer et elle revenait.
Marie Laurencin rencontrait Michel Descodins donc dans un milieu de peintre. Il était critique d'art aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il s'intéressait à la peinture. D'ailleurs, pour lui, dites-vous, il n'y a pas de frontière entre les différentes formes d'art.
Non, certainement. D'abord, la tentation de la peinture et du regard sur la peinture est aussi ancienne que la tentation du théâtre dont on parlait tout à l'heure. Et c'est une légende de croire que c'est à partir du moment où il a rencontré Picasso et qu'il s'est intéressé à la peinture et s'y intéressait bien avant. Et effectivement, pour lui, comme d'ailleurs pour un certain nombre de ses contemporains dans ce qu'on appelle l'avant-garde des années 1910, l'idée qu'il n'y a pas de frontière entre les différentes formes de création est fondamentale. Ils expriment ça à l'aide d'une image, c'est l'image de la lyre d'Orphée. La lyre d'Orphée, c'est désarticulé. Chacune des cordes a donné lieu à une forme d'expression, la musique, la poésie, etc. Et tout l'art contemporain, toute l'avant-garde auront comme fonction de reconstituer la lyre d'Orphée.
Alors de ce point de vue-là, justement, parce que vous parlez d'Orphée, il est assez proche d'un de ses amis, qui était Jean Cocteau, que l'on écoute ici parler d'Apollinaire, une archivinade de 1943.
Apollinaire n'avait qu'à copier une affiche, un entrefilet de journal, un télégramme oublié au bureau de poste, immédiatement se produisait une métamorphose. Car, fils d'Apollon, il tenait du dieu le privilège de pouvoir changer un arbre en jeune fille et n'importe quoi en merveille. D'autres vous parleront du détail de son œuvre. Je ne veux apporter ici qu'un hommage à la grâce faite homme, un signe de tendresse à cet anarchiste aristocrate, un salut à cette rose des vents. Guillaume Apollinaire fut le troubadour du grand tournoi où Matisse, Picasso, Braque, Derain, Pierrot dressent leurs statures gigantesques, leurs poitrines héroïques et leurs armoiries.
Un commentaire, Michel Descodins, sur ce que dit Cocteau d'Apollinaire.
Tout à fait, dans ce que Cocteau dit de la façon dont Apollinaire, à partir de rien, à partir d'un article de journal ou d'un mot, crée tout un univers, c'est tout à fait vrai. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'il est surréaliste avant le surréalisme. C'est par ce regard et qui fait que il n'y a pas d'une part le monde du réel, le monde du quotidien, et d'autre part le monde idéal, comme le croyaient les symbolistes, avec une muraille entre les deux, mais que le monde de la création, le monde de l'imaginaire, c'est le prolongement du monde réel. Il suffit de savoir regarder.
Anarchiste aristocrate, disait Cocteau.
Aristocrate, oui, certainement. Certainement.
Et anarchiste.
Il y a dans anarchiste aussi, ou tout au moins indépendant de toutes les règles ou toutes les formes structurées.
On dit qu'il a été arrêté en 1911, il met tellement la peinture qu'on a soupçonné d'avoir enlevé la Joconde, et en 1911 oui. Il a fait de la prison à cause de ça.
Vous savez que la Joconde a été volée à la fin du mois d'août 1911, et Apollinaire et Picasso se sont trouvés très inquiets parce que le scandale a fait qu'il y a eu des enquêtes sur les vols dans les musées. Or, Apollinaire avait un ami, un protégé, pour qui c'était... un petit jeu, soit les mauvaises langues racontent qu'il disait à Marie Laurencin, Mademoiselle Marie, je vais faire un tour au Louvre, qu'est-ce que je dois vous rapporter en jouant sur l'ambiguïté du magasin et du musée.
En fait, il a été relâché, oui.
Bon, passons sur les détails parce que ce serait trop long, mais il a été d'abord accusé de recel. Et ensuite, eh bien, par certains journalistes, en particulier des journalistes d'extrême droite, soupçonné d'être l'agent d'un réseau international de vol d'œuvres d'art.
Alors les journalistes ne l'aimaient pas tous. Je vous propose d'écouter ce qu'ils disaient de lui lorsqu'en 1913, le Mercure de France faisait paraître Alcool, où Apollinaire avait rassemblé ses meilleurs poèmes, la revue de presse ou de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, le recueil Alcool paraît en 1913, environ 600 exemplaires, hein, chacun coûtant 3,50 francs, hein, bienheureux ceux qui les ont achetés. Alors, Apollinaire offre le premier exemplaire d'alcool à Marie Laurencin, donc son amour, avec cette dédicace « Vos yeux sont mes alcools et votre voix m'enivre comme une eau de vie ». Hélas, ce message ne fera pas revenir la belle. Alors comment ce recueil est-il reçu par la critique? Certains sont enthousiastes, comme Paul Léoto ou Blaise Sandrard, qui écrit à l'auteur « Vous êtes mon maître, vous êtes notre maître à tous ». Mais dans l'ensemble, les critiques trouvent la chose bien incongrue. Pour Georges Duhamel, par exemple, ce livre ressemble, je cite, « à une boutique de brocanteurs, remplie d'une foule d'objets hétéroclites. Le marchand tenant, je cite, à la fois du juif levantin, de l'américain du sud, du gentilhomme polonais et du facchino. Un cosmopolitisme bariolé. » Et oui, hein, il faudra bien s'y faire. Apollinaire, un de nos plus grands poètes, n'est pas un Français pur bœuf. Alors le poète, qui est d'une nature assez impulsive... voudra attaquer Georges Duhamel en duel, mais ses amis, heureusement, le retiendront. Alors, autre critique de l'époque, Henri Martineau, dans la revue Le Divan. Apollinaire, dit-il, est un poète charmant, un fin lettré qui s'amuse et ne craint pas d'afficher son goût de la bizarrerie. Un passionnant brocanteur, encore un brocanteur. Et ce critique lui reproche aussi d'avoir supprimé toute ponctuation. 200 pages, figurez-vous, sans un point ni une virgule. Alors à ce Martineau, Apollinaire va écrire une lettre auquel il répond donc assez pacifiquement cette fois. « Ce n'est pas la bizarrerie qui me plaît, c'est la vie. Chacun de mes poèmes est la commémoration d'un événement de ma vie. Je suis comme ces marins qui, dans les ports, passent leur temps au bord de la mer qui amène tant de choses imprévues, où les spectacles sont toujours neufs et ne lassent point. » Alors pour finir, je vais vous lire un petit poème que j'ai choisi, donc un des poèmes d'Alcool, ça s'appelle « La blanche neige ». Les anges dans le ciel. L'un est vêtu en officier, l'un est vêtu en cuisinier, et les autres chantent. Bel officier couleur du ciel, le doux printemps, longtemps après Noël, te médaillera d'un beau soleil, d'un beau soleil. Le cuisinier plume les oies. Ah, tombe neige, tombe et que neige, ma bien-aimée, entre mes bras.
C'est beau, hein, Michel Descodins.
Oui, c'est très beau. Il faudrait une heure pour commenter un court poème comme celui-là. Et pour
il y a
voir
eu plus
comme...
court. Hein. Il y a eu un poème avec un vers unique qui s'appelait « Et l'unique cordeau des trompettes Marie ».
C'est chantre, oui. Mais dans celui-là, effectivement, le jeu des résonances, des correspondances, est quelque chose absolument admirable. Mais pour revenir, si vous voulez, aux commentaires sur alcool, effectivement, une grande partie de la critique, et en particulier la critique habituée à une certaine tradition de clarté, de précision, même dans la poésie de la littérature française, a été surpris. Parce que, faute d'autres mots, on a appelé bizarrerie, brocante. Mais Apollinaire donne la bonne réponse, n'est-ce pas ? Et Apollinaire, c'est le lyrique par excellence. C'est l'homme qui est ouvert à tout, qui admire tout. J'admire tout, comme disait Victor Hugo. Hein, il admire tout. Et tout est pour lui matière à poésie. Et il n'y a pas les choses nobles et les choses ignobles, n'est-ce pas ? Il y a les choses, tout simplement. De même que dans son vocabulaire, il est capable, dans le même poème, d'utiliser les mots les plus savants, les plus évocateurs, les plus poétiques, et de dire, comme dans la chanson du Mal-aimé, « Et moi j'ai le cœur aussi gros qu'un cul de Dame Damascène ». Ce qui est fantastique.
Oh mon amour, je t'aimais trop. Et
voilà.
Mais alors ça, c'était en l'alcool, c'est 1913. C'était à la veille d'une guerre pendant laquelle le poète allait se métamorphoser en soldat. « Si je mourais là-bas », un poème d'Apollinaire chanté par Mouloudji.
Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu m'oublierais un jour, oh loup, ma bien-aimée. Et puis... ce souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier, la mer, les monts, les vals et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace comme font les fruits d'or autour de Baratier. Souvenir oublié vivant de toute chose, je rougirais le bout de tes jolis seins roses, je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants, tu ne vieillirais pas, toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur esprit galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleur, plus de vitesse à l'onde. Un amour inouï descendrait sur le monde. L'homme serait plus fort en ton corps écarté. Lou, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus vivante, étant la plus jolie. Oh, mon unique amour et ma grande folie.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, Guillaume Apollinaire.
C'était Mouloudji chantant un des poèmes à Loulou, c'était Louise de Coligny, une autre femme, un autre échec après lequel Apollinaire s'est engagé dans l'armée au début de la Première Guerre mondiale, Michel Descodins, c'était le 4 décembre 14. Alors, rien ne l'y obligeait. Il était volontaire. Pourquoi s'est-il engagé ?
Il était volontaire. Je crois d'abord qu'il faut se rétablir dans l'atmosphère de l'époque où il y a eu un grand mouvement d'enthousiasme pour la défense de la France. Je vous rappelle que, à l'appel de Sandrard et de Canudo, 5 à 6 000 écrivains et artistes étrangers vivant en France se sont engagés. Mmh. Il a fallu créer des bataillons de la Légion spécialement pour eux. Alors vous allez me dire, pourquoi ne les a-t-il pas suivis ? Pourquoi n'est-il pas parti, lui aussi, dans la Légion ? Bien, il se sentait français. Il se voulait français. Et comment être mieux français que en portant l'uniforme ? Mmh. Et c'est une raison pour laquelle aussi, il a souhaité avoir, comme on dit, du galant. Soit, on est plus français en étant sous-lieutenant qu'en étant deuxième classe.
Et on est encore plus quand on est blessé. Il
et
a été
encore
blessé
plus quand on est blessé.
Le 17 mars 1916 à la Tempe, il a été trépané.
Oui.
Il n'est pas mort de ça. Il mourra de la grippe espagnole, mais juste avant la
et des gaz asphyxiants,
la guerre.
On l'oublie souvent.
Il a écrit beaucoup aussi pendant la guerre. La guerre n'a pas empêché d'écrire. Au contraire, très conscient de ce que signifiait cette guerre nouvelle, il disait, nous disions adieu à toute une époque, et bien qu'étant déjà des hommes mûrs, nous venions cependant de naître. Hein. C'était le calligramme.
Je crois qu'il faut être clair à propos de la guerre. On nous ressasse toujours le adieu que la guerre est jolie, sans se rendre compte, n'est-ce pas, que ce poème est une antiphrase. Les gens qui disent ça ne lisent pas le poème qui n'a que 8 vers, cependant, jusqu'à la fin, et qui se termine justement par la mort. Et j'étais heureux que vous ayez cité tout à l'heure ce poème à Lou. C'est vrai, il est un hymne, il fait ses classes, et à quoi pense-t-il? Bien à la mort, déjà. Contrairement à ce qu'on prétend, Apollinaire n'est pas allé à une guerre fraîche et joyeuse, il était extrêmement conscient des horreurs de la guerre.
Et puis il pressent, Michel Descodins, l'apparition d'un art et d'un esprit nouveau. Il en parle d'ailleurs le 26 novembre 1917 au théâtre du Vieux Colombier devant un parterre d'admirateurs, le noyau du futur groupe des surréalistes, une conférence d'Apollinaire sur l'esprit nouveau dont se souvenait André Breton en 1952.
Je me rappelle quelle fut la consternation de ces jeunes gens dont j'étais et qui ne voyaient alors que par lui. Quand ils comprirent que cet esprit nouveau, il prétendait le fonder sur l'ordre, le bon sens et un prétendu devoir national. Pour comble de dérision, les poètes étaient invités à modeler leurs préoccupations et leurs rêves sur ceux des mathématiciens. Le proche avenir allait faire justice de ces sornettes. Je pense qu'il n'y a plus lieu de s'y arrêter. Tout au plus prouve-t-elle qu'Apollinaire fut un détestable théoricien. L'esprit nouveau, au sens où nous pouvons l'entendre encore, est aux antipodes de ce qu'il dit. Il éclate dans Zone, dans Main chapitre du poète assassiné, dans Lundi rue Christine et ailleurs, soit partout où la liberté et l'audace d'Apollinaire ont rejeté toutes les bornes et ouvert toutes les écluses qui peuvent donner cours à l'inouï.
Très critique sur Apollinaire, Michel Descodins. En tout cas, dans la première partie, Breton a toujours dit que ce que le surréalisme devait à Apollinaire, et en même temps, il le critique beaucoup.
Bon, d'abord, c'est quelque chose d'assez tardif, cela, et je dois dire que, en fait, ou bien il n'a pas relu, ou bien il n'a pas compris l'esprit nouveau. Car ce qui est très frappant dans l'esprit nouveau, c'est justement cette indifférence d'Apollinaire à l'égard des doctrines. Cette idée que la création ne se fait pas selon un système, comme elle se fera d'ailleurs un peu chez les surréalistes, mais elle se fait d'abord par l'action d'un homme. La difficulté qu'Apollinaire a à définir justement cette création. Il a employé esprit nouveau, il a employé surréalisme, il a employé orphisme, il a employé toutes sortes de formules. Ça prouve bien que pour lui, ça ne répondait pas à un système. Ça répondait à une dynamique.
Breton critiquait aussi le côté visionnaire, niait le côté visionnaire d'Apollinaire. Dans votre livre, vous insistez beaucoup sur l'importance, par exemple, qu'il donnait au cinéma. À l'époque où le cinéma, personne ne pouvait deviner que ça deviendrait un art, et un art populaire.
Apollinaire est un de ceux qui ont senti justement ce que serait l'épopée de demain, disait-il, pour le cinéma. Et il est, mais je ne sais pas moi, essentiellement un visionnaire. Et il est passé tout naturellement de l'écriture à la peinture, à la lecture de la peinture, de l'écriture également au calligramme, dont nous n'avons pas parlé, mais c'était quelque chose d'important, et également de l'écriture au cinéma. Pour lui, le cinéma, c'était d'ailleurs l'avenir du livre. Il disait que le livre allait mourir grâce au cinéma, d'une part, et ce qu'il appelait le phonographe. Que dirait-il s'il avait connu la vidéo?
Oui, parce qu'il est mort, je vous rappelle, donc de la grippe espagnole le 9 novembre 1918. Où est-ce qu'on peut le classer? Parce qu'il, justement, il n'aimait pas les écoles. Il y a du Verlaine chez Apollinaire, il est son successeur. Il y a déjà du surréalisme.
Voilà. On peut dire que, d'une part, il y a de tout chez lui, et que, d'autre part, il y a d'abord Apollinaire.